Voilà, j'espère que vous vous êtes un peu désaltéré, vous êtes étiré, et puis vous êtes prêt pour cette deuxième partie du chapitre 11 à partir du verset 11. On te laisse la parole, Gilles. Merci.
Merci Nathanaël. Et puis, comme d'habitude, je pense que je vais. Mon rythme est probablement trop rapide pour beaucoup de personnes. Quel défaut j'ai d'être toujours à. Mais bon, heureusement, les enregistrements sont là. Donc, si vous pouvez avoir accès plus tard aux enregistrements, si jamais. Je parle trop vite, eh bien, vous pourrez du moins réécouter pour reprendre un peu ce qui aura passé trop rapidement. Je m'excuse encore pour ça. Maintenant, on est rendu au troisième argument de Paul dans le chapitre 11 au sujet de Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël. Et cet argument-là, comme vous le voyez d'ailleurs dans vos notes de cours, c'est le plan souverain de Dieu dans la rédemption, dans l'histoire de la rédemption. Hein, c'est la rédemption, c'est de quelle manière Dieu va racheter l'homme à cause du péché. On sait que le péché est entré dans le monde et qu'il a brisé cette relation avec Dieu. Eh bien, Dieu lui-même a mis en place son plan de rédemption déjà dans l'éternité passée, ce qui nous échappe complètement. Alors, nous allons lire les versets 11 et 12 à ce sujet-là. Donc, je reprends encore ma Bible Darby pour lire les deux versets. Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent? Qu'ainsi n'advienne, mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude. Quel texte! Deux versets seulement, mais ah, c'est vraiment puissant, là. Maintenant, il faut quand même dire que, ouais, la version Darby aurait besoin d'être un peu peut-être rafraîchie ici, avec ces verbes tombasse, qu'on n'utilise vraiment plus, je pense, aujourd'hui. Mais disons qu'on pourrait traduire simplement ainsi, ont-ils chuté afin de tomber? Bon, avant même de comprendre la question, déjà, si on a accès au texte original, on sait que la réponse sera non. Donc, on a le même type de construction grammaticale ici avec un adverbe de négation qui indique déjà la réponse. Et en plus, bien, on a à nouveau l'exclamation intense, soudaine, très forte, que cela n'arrive jamais ou qu'ainsi n'advienne ou loin de là. Donc, la réponse est très claire, très clairement non. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est intéressant de savoir que Paul utilise deux verbes qui peuvent être synonymes en bonne partie et qui parlent de tomber, qui décrivent une chute, mais avec chacun leur particularité. Dans la Darby, on voit le verbe broncher et le verbe tomber. Le premier, le verbe broncher, parle de faire une chute suite à un faux pas. Donc, c'est comme de trébucher sur quelque chose. Au sens vraiment littéral, donc graphiquement, imaginez-vous quelqu'un en train de marcher et là, tout à coup, son pied prend dans quelque chose et puis voilà, le mouvement est enclenché et normalement, c'est pas joyeux, mais normalement, la personne va finir en plein visage par terre de tout son long. Et c'est cette image, vraiment, c'est ce sens graphique que Paul utilise ici pour Israël, pour le fait d'avoir rejeté leur Messie. La chute dont on parle, c'est le fait d'avoir rejeté Jésus, d'avoir rejeté la messianité de Jésus. Donc, est-ce qu'ils ont fait un faux pas pour tomber? Et là, tomber a le sens de tomber définitivement. Ce verbe-là parle d'une ruine complète et définitive. Donc, est-ce qu'ils ont trébuché pour finir à plat ventre, par terre, définitivement? Bien sûr, on parle dans un sens figuré, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont péché en rejetant Jésus au point d'être complètement ruinés, perdus pour toujours? Et la réponse, non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'aucun de ceux qui ont rejeté le Messie ne seront pas perdus. C'est même le contraire. C'est qu'il y a beaucoup de Juifs, malheureusement, qui ont rejeté à cette époque et encore aujourd'hui, et à travers les âges, ont rejeté la messianité de Jésus. Ils sont perdus comme n'importe quel autre homme d'ailleurs. Mais le point ici de Paul, c'est de dire qu'en tant que peuple ethnique, en tant que peuple des alliances, c'est clair qu'il ne va pas disparaître, ce peuple. Il n'a pas disparu, il n'a pas été rejeté définitivement par Dieu, et donc la chute d'Israël n'est pas une chute définitive. Il y a un avenir pour eux, et c'est ça le point de Paul ici, et c'est ce qu'il va exprimer très clairement dans le verset suivant. Mais avant d'y arriver, le verset 11 se termine en soulignant que par leur chute, leur faux pas, eh bien, le salut est devenu disponible, en fait, pour les nations. Le verbe parvenir n'est pas dans le grec, mais on voit Darby l'a mis entre crochets pour dire le salut est parvenu jusqu'aux nations, il est pour les nations. Et là, on veut dire pour tout peuple autre que le peuple juif. Donc, ce n'est pas seulement que le peuple juif qui va bénéficier des promesses de Dieu dans les alliances, mais aussi tous les non-juifs du monde entier qui vont croire en Jésus. Ils vont aussi bénéficier de ce salut-là. Mais en plus, Paul dit un but particulier pour les rendre jaloux, pour les exciter à la jalousie. Ça, c'est curieux quand même. Mais là, il faut comprendre comment le peuple d'Israël a développé sa propre vision de lui-même en tant que peuple par rapport aux autres peuples, par rapport aux autres nations. Donc, Israël a toujours pensé qu'ils étaient là et les autres nations ici. Oui, dans un sens, à cause des alliances et des privilèges, leur table les mettait là, c'est vrai. Mais le but, c'était d'emmener ceux-là jusqu'ici, tu vois. C'était de les amener à la connaissance de Yahweh. Mais c'est plutôt le mépris qui a dominé Israël envers les gens ici des nations. Mais là, par leur rejet, Dieu amène, tu vois, les nations à avoir part au privilège de ces alliances. Et eux, ça doit les rendre jaloux. Mais pas jaloux dans le sens de, tu sais, juste péjoratif, comme le péché de la jalousie qu'on a dans notre cœur, qui n'est pas bon, mais pas du tout. Mais on parle d'une jalousie qui est le souhait, le désir d'avoir une relation exclusive avec Yahweh. C'est comme Paul dit, je souhaite les provoquer à la jalousie au sens de les ramener à désirer tellement cette relation avec Yahweh. Ils voient maintenant que les nations l'ont, cette relation-là, et nous, on ne l'a plus. Et donc, voilà pourquoi il y a une provocation dans tout cela à la jalousie. J'espère qu'on comprend bien la dynamique de tout cela, comment ça se produit. Eh bien, l'apôtre Paul, il dit, voilà, c'est que leur chute a amené les nations au salut, et donc ce salut que les nations bénéficient maintenant, eh bien, il doit provoquer Israël quelque part au point qu'ils cherchent à revenir à l'Éternel, qu'ils aient soif à nouveau de cette relation-là avec lui. Et dans le verset 12, l'apôtre Paul va nous dire, si leur chute est la richesse du monde et leur défaite la richesse des nations. Ça, c'est très littéral. Le mot défaite, c'est diminution dans la Darby. Ça parle de subir une perte causée par un échec. Eh bien, vous voyez que ces deux phrases-là, c'est un bel exemple de parallélisme hébraïque. Ça dit exactement la même vérité. Leur chute est la richesse du monde. Il y a trois mots-clés dans la phrase. Chute, richesse, monde. Tout de suite après, on a à nouveau les trois mêmes mots-clés, mais légèrement différents. Défaite ou diminution, richesse, c'est le même mot, et nation plutôt que monde. Mais c'est exactement la même phrase, exactement la même vérité. Bel exemple de parallélisme hébraïque. Et pourquoi? À quoi ça sert, ça? À accentuer la vérité. Le fait qu'Israël a rejeté le Messie, c'est ce qui nous a ouvert la porte au salut. C'est ce qui a ouvert la porte à la rédemption pour toutes les nations. Donc voilà pourquoi pour nous, c'est une richesse que leur chute Mais bien entendu, l'apôtre Paul, il va nous calmer un peu, là, bientôt dans le chapitre 11, en nous disant, mais là, attention, commence pas à te vanter aux dépens des branches, là, naturelles, là, en leur disant, ouais, mais vous avez chuté, puis nous, on est riches maintenant. Tu vois, ça serait tellement incohérent d'avoir une telle attitude. Et c'est vers cela que l'apôtre Paul se dirige gentiment. Mais là, pour l'instant, son point, c'est vraiment de montrer que dans ses plans souverains, Dieu avait déjà prévu d'utiliser la chute d'Israël pour bénir les nations, pour qu'on devienne pleinement participants, nous aussi, aux bénédictions des alliances de Dieu avec Israël, comme les bénédictions de l'alliance abrahamique et bien entendu la nouvelle alliance. Et un jour même, on pourra régner avec le Messie dans le pays d'Israël, renouvelé avec un règne messianique sur terre. Imaginez ces bénédictions que nous allons voir encore. Mais déjà, par le salut, nous sommes bénis. Alors, le point de Paul, c'est de dire, si par leur chute, si par leur rejet du Messie, vous êtes si riches, qu'est-ce que ça va être quand ils vont revenir pleinement? Quand on parle de leur plénitude ici, on parle clairement de la restauration future d'Israël, quand tous les Juifs seront sauvés. Et pas tous les Juifs, sans exception, bien entendu, mais tous ceux qui vont croire parmi le peuple juif, tous ceux qui vont recevoir Jésus par la foi et la repentance, eh bien, quand ils vont parvenir à cette connaissance du salut, eh bien, imaginez tout ce qui va s'en suivre. En fait, la restauration future d'Israël va permettre à nous, non seulement nous, les gens de l'Église, mais aussi ceux des nations à ce moment-là, de bénéficier pleinement de toutes les promesses de Dieu dans ses alliances avec Israël. Alors, vous voyez que c'est vrai que déjà par le rejet du Messie, on bénéficie du salut, mais quand un jour ils seront restaurés, eh bien là, ce sera encore exponentiel. On aura un accès pleinement à toutes les bénédictions à travers la restauration même d'Israël. C'est grandiose ce qui s'en vient. Je crois que ça dépasse même notre entendement. Voilà pourquoi c'était ici l'argument du plan souverain de Dieu dans la rédemption, parce que Dieu, c'est ce qu'il avait prévu à travers le rejet d'Israël, de la messianité de Jésus par Israël, en fait. Et maintenant, on arrive au quatrième argument qui est, ah, lui, là, franchement, il est un petit peu plus complexe. C'est l'argument de l'alliance abrahamique. Mais pourquoi faire de cette alliance un argument particulier? Je l'ai souligné au départ, parce que cette alliance-là est la plus importante de toutes les alliances. En fait, c'est pas la première, parce qu'il y a eu, bien entendu, bon, certains vont parler d'une alliance en Éden ou avec Adam ou etc. J'ai pas trop de problème avec ça, même si c'est pas mon point de vue, mais il y a tout de même l'alliance avec Noé qui se produit avant l'alliance avec Abraham. Mais à partir d'Abraham, là, on a le filon, si je peux dire, ou la lignée de la promesse rédemptrice très clairement établie, et on sait très bien que c'est avec Israël ou par Israël que Dieu accomplit ses plans de rédemption. Dites-moi, de quelle nationalité ou de quel groupe ethnique était Jésus? Jésus était juif, n'est-ce pas? Hein, de la tribu de Juda. Il était un descendant de Jacob, d'Abraham, des patriarches juifs, bien sûr. Et c'est par Israël que Dieu accomplit souverainement ses plans de rédemption. C'est pourquoi Paul va faire de l'alliance abrahamique le quatrième argument pour prouver que Dieu n'a pas rejeté Israël. Oui, on est béni. Mais Israël aussi va l'être encore parce que Dieu a autre chose pour eux. Maintenant, ça nous est donné dans un langage qui est passablement figuré, voire même très figuré. Mais quoi qu'il en soit, sans qu'on ait le temps de détailler tout cela, avec l'aide de la révélation progressive de Dieu, on réussit à comprendre, ou on finit par réussir à comprendre le sens figuré de ce passage. Lisons-le d'abord, vous allez voir avec moi pourquoi il est quand même assez compliqué, même si dans l'ensemble, on peut bien saisir de quoi il est question. On lit les versets 13 à 24. C'est une longue section, c'est l'argument principal en fait. Car je parle à vous, nation, donc tous ceux qui sont des non-juifs en particulier, en tant que moi, je suis en effet apôtre des nations. Je glorifie mon ministère. Si en quelque façon je puis exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux, car si leur rejet est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception sinon la vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, a été hanté au milieu d'elles et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées ou arrachées afin que moi je sois hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisqu'autrement, toi aussi, tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier, qui, selon la nature, était sauvage, a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature, seront-ils hantés sur leur propre olivier? Bon, remarquez bien que hanté, là, il est bien écrit E-N-T-E, hein, et pas H-A-N-T-E, ce qui changerait complètement de sens et qui n'aurait plus de sens finalement. À la lecture, ce n'est pas toujours évident, puis il faut porter attention à cela. J'aime bien qu'on mette des notes aujourd'hui et puis qu'on utilise greffé. C'est beaucoup mieux que hanté, qui est dépassé et qui peut être bien mal compris, malheureusement. Donc, voilà certainement un besoin de révision très clair dans le texte de la Darby. On devrait écrire greffé. Alors, c'est dans les notes de bas de page en plus. Donc, je me dis pourquoi pas le mettre dans le texte lui-même, ce serait peut-être plus clair. Donc, l'alliance abrahamique, le fait d'en être complètement étranger au départ en tant que non-juif, non-descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. On était si loin de ça, d'être bénéficiaire de l'alliance abrahamique est une immense bénédiction. Alors, reprenons verset par verset l'argument de Paul ici. Il dit au verset 13, car je parle à vous, nations, en tant que moi, je suis en effet apôtre des nations, je glorifie mon ministère. L'apôtre Paul, c'est vrai, était apôtre des nations parce qu'il avait été particulièrement appelé par le Seigneur à proclamer le message de l'Évangile parmi les nations, c'est-à-dire parmi les non-juifs. Ça ne veut pas dire que Paul excluait les juifs, au contraire. Sa dynamique missionnaire, c'était d'aller d'abord vers les juifs, le juif premièrement, puis le grec, comme il le dit dans ses épîtres et dans Romains d'ailleurs au début. Alors, pour l'apôtre Paul, il était particulièrement apôtre des non-juifs, mais s'adressait toujours d'abord à son peuple, à son propre peuple, pardon. Maintenant, il utilise une expression qui est un petit peu curieuse pour nous. Je glorifie mon ministère ou mon service. Le terme utilisé parle simplement d'un service, quelque chose que l'on accomplit pour le Seigneur. Mais cette façon de dire glorifier ici signifie en fait je prends très au sérieux. Glorifier dans le sens d'attribuer tout le mérite ou le sérieux de quelque chose à quelque chose. Et son ministère était tellement important que quand il dit je le glorifie, il veut dire en fait je le prends très, très, très au sérieux. Et pourquoi il le prenait au sérieux à ce point-là? parce qu'il savait qu'à travers son ministère auprès des non-juifs, il pouvait allumer quelque chose chez les juifs. Et ce quelque chose ou allumer quelque chose, Paul utilise l'expression provoquer à la jalousie ou exciter à la jalousie. C'est ce qu'il explique au verset suivant, le verset 14. Il veut exciter à la jalousie sa chair. Et imaginez si on comprend mal le mot chair, exciter la chair, ça fait bizarre un peu. Donc on doit comprendre clairement le sens ici. Chair veut simplement dire compatriote juif. Donc, quand Paul, il parle d'exciter à la jalousie sa chair, il parle de provoquer chez les compatriotes juifs un désir de revenir au Seigneur pour avoir à nouveau presque cette exclusivité dans la relation qu'ils avaient avec Yahweh. Leur faire réaliser en fait qu'ils ont perdu cette relation-là. Et l'apôtre Paul, il dit, voilà c'est quoi mon ministère. Prêcher l'évangile aux non-juifs, mais pour amener les juifs à réagir, à redésirer pleinement avoir cette relation avec Yahweh et ainsi sauver quelques-uns d'entre eux, sauver certains d'entre eux. Ici, juste une précision très importante. Quand on voit le verbe sauver à la voix active, dans le sens où quelqu'un sauve quelqu'un d'autre, si ce n'est pas Dieu qui sauve et que c'est une personne, vous comprenez que on n'est pas en train de dire que quelqu'un peut sauver littéralement une autre personne, mais ça veut simplement dire d'être utilisé par Dieu comme instrument pour amener quelqu'un au salut. Donc, quand Paul il parle de sauver des Juifs lui-même, il veut simplement dire qu'il espère être entre les mains de Dieu un instrument pour conduire les compatriotes juifs au salut. Voilà comment il parle. Pourquoi Paul dit cela? Parce qu'il est très conscient de quelque chose, que le peuple juif va être restauré un jour et comme maintenant on vit dans la période de l'Église, l'apôtre Paul leur prêche l'Évangile pour qu'ils soient sauvés, mais tout en sachant très bien qu'un jour, le peuple juif va se tourner vers le Seigneur pour le recevoir par la foi. Et regardez dans le verset 15 comment Paul exprime cela. Car si leur rejet ou réjection, dans une autre correction de Darby antérieure, si leur rejet ou réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception? Donc là, ça fait contraste avec rejet. Sinon, la vie d'entre les morts. Et la vie d'entre les morts parle bien entendu d'avoir la vie spirituelle, la vie éternelle. Donc, le fait que Israël est mis de côté par Dieu. Ici, le mot rejet parle de en fait, d'être l'objet du rejet de Dieu. Mais ce n'est pas le rejet définitif dans le sens où Dieu a complètement rejeté son peuple. C'est plutôt une mise à l'écart qui est temporaire. Donc, si on veut rendre correctement l'idée de rejet ici, on devrait traduire par si leur mise à l'écart temporaire. Parce que c'est exactement ce qui se passe et c'est exactement aussi toute l'argumentation de Paul dans Romains 11. Alors, si leur mise à l'écart temporaire a été la réconciliation du monde, donc c'est-à-dire si par le fait que le peuple juif a été mis de côté, ça a ouvert la porte aux nations et donc ils ont pu être les nations, elles ont pu être réconciliées avec Dieu, eh bien imaginez quand Israël va revenir. Qu'est-ce que ça va être? C'est une autre façon de dire ce que Paul a dit auparavant dans le verset 12. Leur chute et la richesse du monde, leur diminution, la richesse des nations, eh bien, qu'est-ce que sera leur plénitude? C'est la même question qui est posée à nouveau ici. Qu'est-ce que ce sera quand le peuple juif vont enfin reconnaître Jésus comme leur Messie, implorer son retour? Eh bien, on entrera dans une pleine bénédiction de toutes les promesses de Dieu dans ses alliances. Voilà pourquoi aussi je crois fermement à l'accomplissement d'un retour dans le pays d'Israël, dans les limites que la Bible avait données au départ et qu'ils n'ont jamais profité, et qu'il y aura un trône en Israël et qu'il y aura aussi même un sacerdoce en Israël, tout cela pour permettre l'accomplissement de tant de promesses de Dieu dans les alliances. Et nous, en tant que croyants de l'Église, on aura le privilège de vivre tout cela avec le Seigneur, Comment? De quelle manière? Je l'ignore complètement, mais j'ai hâte. Je sais que ça va arriver. Et puis même si les détails ne sont pas tous révélés et que ça peut nous échapper, l'Écriture dit, nous allons régner avec Christ et en particulier dans le royaume messianique à venir, avec des responsabilités et des privilèges aussi. Alors, qu'est-ce que ce sera quand ils vont revenir? Leur réception, en fait, c'est une autre manière de parler de réintégration. D'ailleurs, le terme qui est utilisé dans le texte original, il est apparenté à un verbe, proslambano en grec. Et ce verbe-là a la particularité de signifier recevoir, mais dans le sens de souhaiter la bienvenue à quelqu'un, d'accueillir quelqu'un dans son cercle d'amis. Et donc, le mot réception, il contient ces notions-là. L'idée de souhaiter la bienvenue, d'accueillir dans le cercle d'amis. Hey, ça nous parle d'une relation restaurée. Israël, on te souhaite la bienvenue. Et voilà, Israël entre dans le royaume messianique, régénéré au bénéfice des bénédictions de la nouvelle alliance. Que ce sera remarquable. Alors, l'apôtre Paul, là maintenant, il se tourne vraiment vers l'alliance abrahamique pour expliquer que au départ, s'il y a un avenir pour Israël, c'est parce que Dieu, il y a un point de départ, hein? C'est lui qui a fait des promesses, c'est lui qui a fait des alliances et qui permettent que Israël un jour puisse avoir un avenir glorieux. Eh bien, nous lisons ceci dans le verset 16. Avec une image qui est doublée, mais qui veut dire exactement la même chose, c'est un autre exemple très, très clair de parallélisme hébraïque. Verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Comprenez bien là, que je suis sûr que Paul ne parle pas de recette, de faire une recette là, avec une masse, là. De pâtes, puis avec des prémices, ni qu'il ne parle de comment on doit entretenir des arbres et puis de les soigner avec la racine et les branches. On comprend très bien que c'est un langage figuré. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'est-ce que ça signifie? Prémices, racines, ça veut dire la même chose. C'est dans du parallélisme hébraïque. Donc, ça veut dire la même chose. Et masse et branches veut aussi dire la même chose. Quand on parle de prémices et de racines, on parle de quoi? Ce qui est au départ, ce qui est au tout début, là, ce qui est à la base. Et qu'est-ce qui est à la base de la rédemption d'Israël à venir, comme de notre propre rédemption d'ailleurs? Qu'est-ce qui est à la base? Les patriarches juifs et plus précisément les promesses de Dieu dans l'alliance abrahamique. S'il y a un avenir pour Israël, s'il y a un salut pour nous aujourd'hui, c'est parce que Dieu un jour a dit à Abraham, je te bénirai, je bénirai une nation qui sortira de toi et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était le point de départ. D'un point de vue d'alliance, d'un point de vue de promesse de Dieu. Ah, la rédemption, ça part bien avant ça. Ça part dans l'éternité passée, mais aussi dans la Genèse 3, verset 15, avec le proto-évangile, la première annonce de l'évangile, avec le triomphe de Christ sur le serpent ou le diable. Mais dans un contexte de promesse, d'alliance, d'histoire de rédemption, les prémices, la racine, ce sont les promesses de Dieu dans l'alliance abrahamique, parce que tout part de là. Et donc, si on parle de masse par la suite ou de branches, bien on parle de ceux qui sont au bénéfice, qui sont croyants, qui en bénéficient. Donc, dans les deux cas, que ce soit la masse ou les branches, on parle bien du peuple ou du peuple juif, mais je devrais dire plutôt l'ensemble des juifs croyants. Pourquoi ils sont saints? Séparés de Dieu, mis à part pour servir Dieu. Et quand tu es saint, c'est parce que tu as été justifié. Et pourquoi ils sont justifiés? Pourquoi? À cause des promesses de Dieu. La rédemption ne repose pas sur la réussite d'Israël ou le succès qu'on peut avoir. Repose entièrement sur les promesses de Dieu dans des alliances inconditionnelles. Bon, voilà, l'imagerie est très claire. Mais on arrive au verset 17, et là, il y a des branches qui ont été arrachées. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? des branches qui sont arrachées. Le mot branche n'a pas toujours le même sens, mais il parle toujours de personnes. Donc, on parle de juifs croyants ou de juifs incroyants, ou alors de non-juifs croyants ou de non-juifs incroyants, mais ce sont des branches. Ça me fait penser aux images que le Seigneur utilise aussi dans Jean 15. Vous lirez ce chapitre à ce sujet, très intéressant aussi, qui parle de reposer sur une base, hein, le cep avec ses sarments. Bon, maintenant, on a le même type d'imagerie ici, et puis on a les branches qui sont arrachées, les Juifs non-croyants qui perdent, en fait, les privilèges qu'ils avaient eus, qui auraient pu les conduire au Messie, mais qui tombent plutôt sous un jugement disciplinaire de Dieu. Et puis là, tu as celui qui était l'olivier sauvage, c'est-à-dire celui qui est complètement étranger, le croyant non-juif, pardon, l'incroyant non-juif même, qui est complètement étranger à tout cela, qui par la foi et la repentance est greffé maintenant avec ceux qui sont croyants parmi le peuple juif. On voit ça dans les Actes des Apôtres, ça se déroule sous nos yeux, des non-juifs qui deviennent croyants, qui sont joints aux juifs, qui sont croyants et qui deviennent coparticipants ensemble, parce qu'ils sont greffés à la même place, ils sont coparticipants de la, et là c'est toute une expression, de la racine et de la graisse de l'olivier. Je me demande encore pourquoi Darby a mis un « e », parce que la construction grammaticale est complexe, c'est peut-être à cause de ça, mais ça dit littéralement la racine de la sève de l'olivier. C'est qu'une seule phrase, il n'y a pas de e, c'est pas deux choses, en fait. Mais tout cela, racine, graisse, olivier, de quoi ça nous parle? Ça parle des bénédictions spirituelles abondantes dans l'alliance abrahamique. C'est la base. C'est de là que viennent nos bénédictions d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, avec la cohérence théologique, on arrive à comprendre une telle imagerie. L'apôtre Paul est en train de dire, oui, les Juifs non-croyants sont arrachés. Toi, en tant que non-juif croyant, tu es greffé. Puis greffé à quoi? Aux bases solides des promesses de Dieu dans l'alliance abrahamique. Mais attention, commence pas à jouer à l'orgueilleux, à te vanter de cela. Ça, c'est déjà dans le verset 18. Ne te glorifie pas contre les branches. Là, on veut dire contre les Juifs. Hein? Parce que si tu as envie de te glorifier, rappelle-toi quelque chose. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Autrement dit, tu n'es pas à la source de ton propre salut. Tu n'es pas la source de tes bénédictions. La source, ce sont les promesses de Dieu dans l'alliance abrahamique qui avait été faite avec Israël, mais qui ont été mis de côté temporairement parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et là maintenant, toi, qui que tu sois, moi aussi, à l'autre bout de mon Québec, là, en Amérique du Nord, de l'autre côté de l'océan, moi aussi, j'ai maintenant part à cette racine abondante, à cette sève qui déborde, cet olivier gras. C'est une manière de parler d'un arbre qui est vert, vivant au maximum, tu vois, et qui produit beaucoup. Eh bien, on est tellement béni maintenant. Est-ce qu'on va se vanter? Est-ce qu'on va regarder Israël en disant ouais, ils ont rejeté le Messie? Ben non, c'est pas ce qu'on va faire. On va plutôt glorifier Dieu, le remercier de nous avoir donné le privilège d'avoir part à ces bénédictions-là et prions pour le salut des Juifs et de tous les non-Juifs de toutes les nations du monde. Voilà ce à quoi on est appelé. Paul veut nous amener à ce raisonnement-là, tout comme ce qu'il voulait faire d'ailleurs avec les croyants de Rome, qui avaient peut-être même, tu sais que depuis le décret de Claude, là, qui avait dit à tous les Juifs, sortez de Jérusalem, peut-être que là, l'Église était tombée majoritairement non-juive, puis on regardait peut-être les Juifs de haut. Alors l'apôtre Paul, probablement qu'avec un chapitre comme celui-là, qui nous paraît presque uniquement doctrinal, il était avant tout pratique pour l'Église de Rome, je vous assure. D'ailleurs, il veut les amener à une conclusion parfaitement sensée. Tu diras donc, ça là, dans le verset 19, là, tu diras donc, ça a pour but d'amener une conclusion valable, conforme. C'est comme si Paul disait, voici ce que tu dois dire en tant que non-juif qui bénéficie de la sève, de toutes ces bénédictions, là, de l'alliance abrahamique, des branches ont été arrachées afin que moi je sois greffé, littéralement. Voilà, c'est le verset 19, et c'est juste. C'est vrai, ceux qui ont rejeté le Messie sont retranchés pour que toi tu puisses avoir part aux bénédictions de l'Alliance. Gardez à l'esprit que l'apôtre Paul n'est pas en train de faire un décompte de certaines personnes ou de mettre un nom au-dessus de chaque branche. Ce n'est pas le point. Il parle de façon générale pour qu'on puisse simplement comprendre que le peuple juif en général est sous discipline pour que tous les non-juifs puissent croire et être bénéficiaires maintenant des promesses de Dieu. Voilà, c'est une façon générale de parler, bien entendu. Et c'est ce que Paul va conclure, en fait, avec les derniers versets de cette section-là, en disant bien, verset 20, hein, ça, bien, c'est bien répondu. Si c'est comme ça que tu dis les choses, et pas en te vantant, là, par orgueil, eh bien, tu dis la bonne chose. Elles ont été arrachées par manque de foi ou cause d'incrédulité. Toi, là, tu es debout, tu te tiens debout par la foi. Super, merveilleux, c'est juste, mais sois pas orgueilleux. Crains. Et là, ce qui suit, parfois a été malheureusement interprété comme si Paul menaçait de perdre le salut, là. Comme si Paul il disait aux croyants non-juifs, là, faites bien attention que vous ne soyez pas disciplinés par Dieu au point d'être arrachés, là, puis là, vous allez tomber perdus dans vos péchés à nouveau. C'est pas du tout le point de Paul. Son point est d'abord de mettre en garde contre l'orgueil et d'avoir l'attitude qui convient. Mais c'est aussi de rappeler que Dieu est un Dieu juste et sévère et que Dieu peut discipliner. La Bible ne parle jamais de perdre son salut. Mais par contre, on peut perdre les privilèges liés à notre salut, dont entre autres la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On peut perdre cette paix-là dans une mesure quand on est désobéissant et qu'on n'a pas la bonne attitude. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Dieu ne nous arrache pas dans le sens de nous faire perdre le salut, mais Dieu peut nous infliger une discipline sévère qui a pour but de nous corriger pour nous ramener au bon endroit. Mais aussi, le texte peut suggérer que certains n'avaient pas vraiment compris et que finalement, que par un orgueil purement religieux, qu'ils pensaient posséder les choses tout simplement parce que eux, ils le méritaient, ben finalement, ils vont finir par être retranchés dans le sens où ils n'ont même pas de part à ces bénédictions-là. Et là, il y a un avertissement sérieux pour bien des gens qui probablement fréquentent les églises en s'imaginant qu'ils sont croyants, tout simplement parce qu'ils suivent les autres ou font comme les autres ou disent comme les autres et pensent avoir reçu de par leur propre mérite ou ceux de leurs parents le salut. Mais ce n'est pas comme cela. On sait très bien que c'est une affaire personnelle et c'est une question de foi et de repentance personnelle. Donc voilà pourquoi Paul veut attirer les regards des croyants de Rome et de nous aussi par le fait même sur la grande bonté et la sévérité de Dieu tout à la fois. C'est ce qu'on voit dans le verset 22, de considérer la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers ceux qui croient et l'ont reçu. Il y a ici une structure grammaticale qu'on appelle un chiasme. C'est un genre de miroir qui met en parallèle de façon symétrique des vérités. Remarquez comment c'est construit. Il y a toujours un point, comme un miroir, une vérité qui reflète la même vérité qui est évoquée un peu plus haut dans le texte. Ici, on a comme deux concepts, deux idées, la bonté, la sévérité. Et regardez comment ça fonctionne. C'est vois donc ou considère la bonté, premièrement, ensuite, on se dirige vers un point central, la bonté et la sévérité de Dieu. Et là, tout de suite, on reprend la thématique de la sévérité envers ceux qui sont tombés, et on revient dans la structure d'un chiasme vers le point de départ, la bonté de Dieu envers toi. Même si vous ne voyez pas le texte grec, vous pouvez le voir parce que Darby, très souvent, il reflète la structure même syntactique et grammaticale du texte original. C'est pour ça que dans la préface d'une Darby, on voit que l'effort ou le désir a été de rendre comme dans un miroir le texte original. Donc, la bonté, la sévérité, sévérité, bonté. C'est exactement la structure du verset 22. C'est une bonté que les croyants qui, par la foi et la repentance, ont reçu ces bénédictions-là, profitent aujourd'hui. Et la sévérité de Dieu, c'est le jugement disciplinaire contre ceux qui rejettent cette bénédiction de Dieu. Autrement, le texte du verset 22 dit, toi aussi, tu seras coupé. Et pensez bien que c'est où? C'est une personne qui n'a pas vraiment saisi, compris et qui reste dans l'orgueil de son cœur, va finir par être tranchée, ou c'est quelqu'un qui va être discipliné par Dieu s'il lui appartient, mais qu'il n'a pas la bonne attitude. Donc voilà comment on doit vraiment comprendre ce verset 22 fondamental. Et là, Paul arrive avec la notion très claire d'une restauration future pour Israël. Au verset 23, Paul dit, s'ils ne persévèrent pas dans le manque de foi ou l'incrédulité, ils seront hantés, c'est-à-dire greffés, parce que Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et quand on parle bien sûr ici de greffer de nouveau, tu vois, c'est l'image de prendre Israël qui avait été arraché, puis de le remettre à sa place. Mais bien entendu que on parle uniquement de ceux qui sont croyants et de ceux qui seront croyants à ce moment-là. C'est pas tous les Juifs de tous les siècles là, qui vont être réveillés et qui vont être greffés. C'est simplement de parler de cette génération de Juifs croyants au moment ou peu avant le retour du Seigneur. Et donc, eux, ils seront dans l'imagerie greffés de nouveau à cet olivier, à cette bénédiction de l'alliance abrahamique. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'ils appartiennent, parce que Dieu s'est engagé par des promesses à leur accorder cela, comme le verset 24 qui vient clore l'argument de l'alliance abrahamique le souligne très bien. C'est un verset qui est compliqué parce qu'on a plusieurs fois l'expression selon la nature et le sens n'est pas toujours exactement le même. Comme par exemple, ça débute en disant, si toi, tu as été coupé de l'olivier qui, selon la nature, était sauvage. Là, on est en train de parler d'un non-juif qui a été arraché de son olivier à lui. C'est un olivier sauvage. Il n'y avait rien à voir avec les bénédictions de Dieu. Il n'était pas dans la plantation de Dieu, cet olivier-là. Il était dans le désert ou n'importe où ailleurs, mais c'est un olivier sauvage. Et donc, Paul, il dit, si toi, le croyant non-juif, tu as été arraché de cet olivier-là qui était selon la nature, c'est-à-dire selon la condition dans laquelle tu étais avant ta conversion. Et tu as été greffé maintenant contre nature, dans le sens que tu n'étais pas du tout un juif, là, puis tu n'étais pas du tout dans les promesses de l'Alliance. Tu as été greffé contre nature sur l'olivier cultivé. C'est une autre manière de parler d'Israël et des bénédictions d'Israël dans les alliances, eh bien, si toi, ça t'est arrivé, combien plus eux qui le sont naturellement, ils font partie du peuple héritier des alliances, mais c'est la foi qui va tout changer, bien entendu, eh bien, combien ils le seront aussi greffés sur leur propre olivier. Et ça, là, j'aime bien cette expression, leur propre olivier, parce que ça nous rappelle à nous que là où on est greffé aujourd'hui, ça ne nous appartenait pas. C'était pas notre table, c'était leur table. Vous comprenez le point? C'était leur alliance, c'était leur bénédiction. Mais dans son plan souverain de rédemption, Dieu avait prévu qu'on y soit aussi par la foi en Christ. Mais j'oublierai jamais d'où je viens. D'ailleurs, c'est l'argument de Paul. Hein, dans le chapitre 2 des Éphésiens, vous étiez quoi, vous? Déjà, là, les non-juifs, vous étiez perdus dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, en étant complètement étrangers à toutes les promesses de Dieu à Israël. N'oublie jamais ça. Tu n'es pas un juif croyant, tu es un non-juif croyant. Remercie Dieu, glorifie-le et prie pour les juifs pour qu'ils se convertissent, tout comme aussi les gens de toutes les autres nations. Doit-on le rappeler? Alors un jour, Dieu, c'est clair, il a une restauration future pour Israël, pas pour tout Israël, mais pour les Juifs croyants à ce moment-là. Et tout cela est fondé sur les promesses de Dieu dans l'alliance abrahamique. Il reste encore deux arguments, mais on n'est pas obligé de bousculer les choses. Déjà là que j'imagine que je suis en train de vous bousculer avec mon rythme qui est beaucoup trop vite, je l'admets. Donc, je m'arrête ici. On avait dit moins 10 là, ensemble avec le comité pour des questions, pour décanter un peu. Et la semaine prochaine, parce qu'on, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, on n'a que 8 versets à couvrir dans le chapitre 12. Je me doutais bien que le chapitre 11 serait presque impossible à couvrir aujourd'hui en entier. On garde les 2 derniers arguments, l'endurcissement partiel et la gloire de Dieu, et ça va faire un pont remarquable avec la section des versets 1 à 8 du chapitre 12 pour la prochaine session.
Merci Gilles, c'est vrai que c'était un grand sprint.
Désolé.
Non, écoute, voilà, tu nous as communiqué ta passion pour ce texte qui est, et en particulier ces versets 16 à 25 qui sont pas tout simples à comprendre. Donc merci. Il n'y a pas vraiment de questions à l'instant. Alors, je ne sais pas si tu veux profiter éventuellement pour préciser encore un point ou l'autre.
Oui, je vais franchement, parce que je me suis moi-même posé la question, qu'est-ce qui nous amène à vraiment établir que l'imagerie utilisée est celle de l'alliance abrahamique? Mais comme je veux le rappeler, c'est le sens même des mots utilisés dans l'illustration. Le mot prémisse, par exemple, le mot racine. Quand il est utilisé au sens littéral, bien, ça parle de ce qui est à la base de quelque chose. C'est le fondement même de quelque chose. Et c'est le même sens s'applique au sens figuré, mais bien entendu qu'on ne cherchera pas la base d'un arbre dans la terre, ses racines, mais on comprend bien que c'est la source de quelque chose. On utilise nous-mêmes dans nos cultures d'aujourd'hui ces mots-là pour parler parfois de source, de base, d'origine, de quelque chose. Donc, ça a du sens. Et non seulement ça a du sens, mais quand on examine l'ensemble des Écritures, ce qui demande quand même une vaste étude, hein? Et puis, on se rend compte que dans les alliances, eh bien, l'alliance abrahamique donne le fondement pour tout le reste. Donc, l'imagerie n'est pas inventée, là. Le sens donné dans le cours d'aujourd'hui repose sur le sens des mots et aussi, bien entendu, l'ensemble de la révélation progressive de Dieu.
Tu peux peut-être éventuellement aborder, j'imagine que tous les commentateurs voient peut-être quelque chose de différent sur ce que peuvent être les prémices. Est-ce qu'il y a d'autres opinions à ce sujet? Tu voudrais juste en dire un mot?
Écoute, en ayant examiné beaucoup, beaucoup de commentateurs exégétiques, donc je n'ai pas regardé, par exemple, des commentateurs qui vont directement dans les applications ou qui spiritualisent le passage en cherchant une sorte d'application spirituelle. Mais si je me fie uniquement aux exégètes, je dirais que la majorité vont dans ce sens-là où les prémices, où la racine, sont une description des fondements même des alliances de Dieu avec Israël. Donc, c'est assez généralisé. S'il y a un commentateur qui diverge là-dessus, faudrait voir son argument et sur quoi il repose son argument.
Ok, merci. Écoute, Gilles, je crois qu'on va en rester là. Il y a pas vraiment de questions directes qui correspondent à la matière traitée, donc on va rester là. On va en rester là. Et puis je vais laisser Mathias conclure.
Alors merci Gilles pour ton exposé. Moi ce soir j'aimerais retenir 3 points. Le premier c'est le plan magnifique de Dieu et puis son déroulé dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième c'est le privilège qu'on a aussi aujourd'hui de vivre ce temps de l'Église et puis la responsabilité que ça implique. On a vu qu'on devait rester humble et puis on a vu qu'on devait aussi partager autour de nous ce magnifique cadeau. Et puis le dernier, on en a parlé, c'est... malgré ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans un monde toujours plus compliqué, c'est les promesses futures qu'on pourra vivre avec le Seigneur Jésus. Donc voilà, merci beaucoup pour cette soirée. Soyez bénis chacun.
Merci, au revoir à chacun.